Santé.
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 C'est bon pour la santé.
Faire du sport.
C'est bon pour la santé.
Les carottes.
C'est bon pour la santé.
Boire, rire, bien dormir.
Bouger, faire de l'exercice.
C'est bon pour la santé.
Puis on vieillit bien à part de ça.
Manger des fruits.
Mangiamo les spaghetti.
Une ou deux gorgées d'eau toutes les heures.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon début d'après-midi, j'espère que vous allez bien. C'est Marianne Paquette qui est là pour les 30 prochaines minutes. C'est bon pour la santé sur Canal M, la dernière de la semaine. Ça s'est bien passé. Je suis contente que vous m'ayez accompagnée à travers cette première semaine de cette nouvelle émission qui, je vous le rappelle, est axée sur la promotion de la santé et saines habitudes de vie. Oui, on est là pour vous proposer à travers chaque journée de la semaine, des stratégies de prévention, des conseils, des astuces, tout ça avec des spécialistes, des experts et des gens aussi préoccupés par leur santé et votre santé. Aujourd'hui, je veux vous parler d'un sujet qui me bouillonne dans la tête depuis quelque temps. Cet été, vous avez sûrement entendu parler de près ou de loin parce que plusieurs médias ont révélé cette histoire de Mai Duong, une dame vietnamienne, mais d'origine, en fait, elle est d'origine vietnamienne, elle vient de Montréal, elle est atteinte d'une leucémie. Et on révélait au milieu de l'été qu'elle avait 2 mois pour trouver un donneur. Donc, cette nouvelle a rapidement... elle a vraiment, elle s'est étalée cette nouvelle-là, elle est devenue un mouvement de mobilisation, les inscriptions au registre des donneurs de cellules souches ont bondi chez Emma Québec. Et moi, en observant cette nouvelle-là, je me suis dit, mais c'est quoi une cellule souche? Je veux comprendre comment ça fonctionne, c'est quoi l'impact sur notre santé, dans notre corps, comment ça fonctionne. C'est pour ça que j'ai invité Laurent-Paul Ménard, lui qui est directeur des communications externes chez Emma Québec, à démystifier ce qu'est les cellules souches. Également, en deuxième partie d'émission, Marc Zafran, lui qu'on connaît comme étant médecin, il a été médecin pendant plusieurs années en France, maintenant auteur, connu sous le nom de Martin Winkler, a signé dernièrement un nouveau livre qui s'appelle « Le patient et le médecin ». En fait, c'est à paraître dans quelques jours et on discutera de ce livre-là, ce nouveau livre-là avec lui dans quelques instants. Mais tout juste avant, je vous présente Laurent-Paul Ménard. Ah, ben peut-être, je vous le présente maintenant, j'attendais un petit pont musical. C'est pas grave, Martin Dupuis à la console. Voilà, on sort tout de suite dans le sujet. Merci d'être là, Laurent-Paul.
C'est un plaisir.
Alors, je le disais tout à l'heure, une campagne de mobilisation qui a été fort efficace. Et la bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'on en a parlé. Ce mouvement-là, pour tenter de trouver un donneur à Mai Duong, c'était difficile parce qu'elle est d'origine vietnamienne. Ça fait quand même gonfler les registres des donneurs. En même temps, je pense qu'il y a plein de gens qui sont curieux, se disent « Ah, mais moi aussi, je voudrais participer. Moi aussi, je voudrais peut-être donner, mais j'ai des craintes. Comment ça fonctionne? Qu'est-ce que c'est une cellule souche? » Vous êtes là pour nous en parler. Qu'est-ce que c'est, une cellule souche?
Eh bien, si on commence l'histoire, c'est un peu... On peut commencer l'histoire en disant « il était une fois », parce que la cellule souche, en fait, ce sont les cellules souches, ce sont les cellules mères qui sont responsables de la création des autres cellules sanguines. Dans le sang, on a 3 cellules et on a également... les 3 cellules sont les globules rouges, les globules blancs, les plaquettes. Et ces cellules-là nagent dans un liquide jaunâtre qui est le plasma. Donc, les cellules souches sont les cellules qui vont créer, en quelque sorte, ces autres cellules-là qui sont les cellules sanguines. Ça se trouve principalement dans la moelle osseuse. Donc, c'est l'endroit où, si on veut faire une image, c'est en quelque sorte l'usine qui fabrique le sang et donc qui fabrique les cellules souches et les autres cellules là, par la suite. Donc, essentiellement, là, c'est un peu ce que sont les cellules souches. Donc, ce sont des éléments vitaux pour chaque personne et elles ont une importance capitale pour la survie de toute personne.
Est-ce que c'est la moelle épinière, à un moment donné, on entendait parler également de ça, les greffes de moelle épinière?
Non, de moelle, il faut faire attention, là, justement, c'est une erreur qui est assez fréquente. On va parler de moelle épinière et ce n'est pas du tout la moelle épinière, on parle de la moelle osseuse. Donc, la moelle osseuse, c'est à peu près à la hauteur du bassin. C'est un os qui est un peu spongieux, dans lequel se trouve du sang, des graisses et des cellules. Et donc, on fait une ponction en quelque sorte. C'est une des façons d'aller prélever les cellules souches, donc de faire une ponction
de
dans
la moelle osseuse.
Et voilà.
Merci
et
pour
voilà.
la précision. Pourquoi aussi? Bon, parce qu'en faisant des recherches, on se rend compte assez rapidement que le sang du cordon ombilical également, des nouveau-nés, qui serait une source importante de cellules souches, qui est recherchée également pour la banque des donneurs.
Oui. Vous savez, au niveau du don de cellules souches, donc au niveau des greffes, il y a trois options possibles qui s'offrent aux médecins greffeurs pour un patient qui a besoin d'une greffe de cellules souches. Une des options, c'est le registre des donneurs de cellules souches. On parlait tantôt donc d'une ponction dans la moelle osseuse. C'est une des options. Une deuxième option qui est un don de sang périphérique. Donc, c'est on va prélever dans le système sanguin du donneur les cellules souches qui circulent dans son système sanguin. Donc, c'est une approche qui est un petit peu moins invasive que l'autre, mm-hmm. que la première, qui requiert une anesthésie et donc une chirurgie. Mais, donc, c'est une deuxième option. Il y en a une troisième qui est celle dont vous venez tout juste de parler, à savoir le don de cellules souches issues du sang de cordon ombilical.
Mm-hmm.
Dans le cas du sang de cordon ombilical, ce sont des cellules souches qui sont dites immatures. Donc, elles ont moins développé, si on veut, en quelque sorte, leur personnalité. Et donc, ça permet davantage d'options. Sauf qu'il y a quand même certaines limites. C'est que souvent, les cellules souches issues du sang de cordon ombilical, elles vont être moins nombreuses. Donc, notre volume, en quelque sorte, de cellules est beaucoup moins nombreux mm-hmm. que pour un donneur qui va utiliser une des deux autres options dont on a parlé un petit peu plus tôt. Donc, mm-hmm. dans ces cas-là, il faut faire attention au poids du patient ou encore combiner deux sangs de cordon qui vont avoir des caractéristiques similaires, c'est-à-dire les marqueurs, et on parle de typage HLA, on pourra en parler là, peut-être un petit peu plus tard.
Mm-hmm. Qui peut avoir besoin d'une greffe de cellules souches?
Essentiellement, c'est dans la plupart des cas, ça va être dans les cas de leucémie. Les leucémies, c'est un cancer du sang. Donc, dans la très grande majorité, c'est dans ces cas-là. Mais il existe d'autres maladies qui ont des noms assez compliqués qui vont toucher là, justement... le système sanguin qui peuvent nécessiter une greffe de cellules souches. Mais dans la bonne majorité des cas, là, on parle de leucémie, c'est-à-dire de cancer du sang.
Mm-hmm. Et maintenant, par rapport au donneur, qu'est-ce qui fait qu'on est compatible ou pas? Est-ce que c'est lié à l'âge? Bon, on l'a vu dans le cas de Mai Duong, à la nationalité. Est-ce qu'on est vietnamien? Est-ce qu'on est canadien? D'où on vient? Bon, là, j'ai l'impression également, est-ce qu'il y a d'autres facteurs?
Bon, écoutez, il y a des éléments intéressants dans la question que vous soulevez. D'une part, c'est pas tant une question de nationalité, on parle davantage de caractéristiques raciales. C'est-à-dire, c'est la couleur de la peau, là, si on veut, là,
ouais,
en quelque sorte,
okay.
qui fait en sorte qu'on a un typage, qui est le typage HLA. Ce sont des caractéristiques que nous avons. Chaque individu a ce typage-là. Et le typage va varier selon la race de la personne. Donc, essentiellement, là, quand on parle de race, pas dans un contexte péjoratif, là, c'est davantage de dire donc, les personnes,
là.
Une caractéristique. Donc, les caucasiens, c'est-à-dire les personnes de race blanche, vont avoir un typage HLA qui diffère de celui des Asiatiques, ou encore personnes qui sont de race noire, ou encore des personnes autochtones.
Mm-hmm.
Même chose du côté des populations qui sont issues là, d'Amérique du Sud, donc les latinos, là, si on veut, en quelque sorte. Et donc, ce sont des groupes qui ont des caractéristiques propres au niveau du typage HLA. Le typage HLA,
oui, voilà.
Qu'est-ce que c'est?
Hein?
Ben, c'est ça. C'est assez complexe, là. Mais... si on veut résumer ce qu'est le typage HLA, ce sont 10 caractéristiques. 5 nous proviennent de notre père et 5 nous proviennent de notre mère.
Okay.
Donc, on doit essayer de trouver un donneur qui va avoir le plus de caractéristiques, donc un 10 sur 10, les 10 marqueurs différents, pour avoir un match parfait. Toutefois, il y a des médecins qui peuvent prendre la décision de dire « on prend une chance à partir de 8 sur 10 ». Donc, 8 des 10 marqueurs vont être similaires entre un donneur et un receveur. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie toujours de trouver un donneur qui va avoir une compatibilité, qui va être parfaite avec le receveur. Ça augmente les chances de succès d'une greffe de cellules souches.
Quand on parle de compatibilité, Laurent-Paul Ménard, on a souvent l'impression qu'il faudrait se tourner vers notre famille. Donc, le facteur héréditaire est important. Pourtant, ce n'est pas le cas.
C'est le cas dans 25 %
des
cas.
Oui, c'est ça. Ce qui est quand même pas mal.
Ce qui est quand même pas mal. Donc, dans un cas sur quatre, on peut avoir la chance de trouver un donneur.
Dans notre famille.
Dans notre famille, mais très précisément, là, c'est chez les frères, un frère ou une sœur qui aurait le même typage, parce qu'il faut être issu des mêmes parents.
Ben oui.
Donc, à partir de là, on a une chance sur quatre de trouver un donneur. Si on ne trouve pas, bon, donc c'est le cas d'à peu près 75 % des personnes qui doivent recevoir une greffe de cellules souches. Si on n'en a pas, donc on doit regarder dans un registre. Et les registres, ils sont internationaux. Donc, pour le Québec, il y a le registre qui est géré par EMA Québec, mais c'est un des 70 registres à l'échelle internationale. Ouais. Ces registres-là comptent 24 millions de donneurs potentiels. Celui du Québec en compte 50 000. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on initie une recherche, d'abord dans le registre québécois, et ça, c'est une recherche qui est initiée par les équipes chez EMA Québec. Donc, on fait une recherche, on essaie d'identifier, bon, c'est sûr, on identifie le typage du patient, et à partir de là, on tente d'identifier un donneur qui va avoir les mêmes caractéristiques, en quelque sorte, au niveau de son typage HLA, que celui du patient qui a besoin d'une greffe.
Donc, vous avez accès à tous les registres internationaux de donneurs.
Oui. Ce sont des registres qui fonctionnent réellement en très grande coopération. Donc, ils sont réunis au sein d'une organisation, là, une sorte de Nations Unies, si on veut, des registres de donneurs de cellules souches, qui mettent ensemble leurs registres et qui, donc, vont rendre possible ces échanges-là pour, justement, permettre une meilleure compatibilité. Parce qu'il ne faut jamais oublier, le 10 sur 10, c'est un peu comme gagner à la loterie, là. Quand on dit le 6-49, ben il faut avoir la combinaison gagnante, c'est-à-dire la bonne combinaison. C'est la même chose au niveau du registre. Donc, c'est important d'être en mesure de faire une recherche dans un bassin qui est le plus large possible.
Et j'imagine qu'il y a des pays qui ne tiennent pas ce genre de registre.
Et c'est là que ça devient intéressant de faire le pont avec le cas de Mai Duong, parce que dans le cas de Mai, le Vietnam ne compte pas de registre.
Voilà.
Donc, en termes de bassin de donneurs potentiels, c'est beaucoup moins élevé. Et non seulement ça, c'est que les Asiatiques, en général, sont sous-représentés tant dans le registre québécois que dans les registres internationaux. Il y a donc un coup de barre, en quelque sorte, qui doit être donné. Et c'est ce qui a beaucoup motivé Mai, ses proches, sa famille, à mettre la main à la pâte et l'épaule à la roue pour justement un peu changer cette tendance-là et faire en sorte que le nombre d'Asiatiques augmente dans le registre québécois et dans les autres registres.
Et créer un mouvement à la fois extrêmement rassembleur ici au Québec, et ce qui a permis de parler des cellules souches, qui a permis aussi d'étayer un petit peu votre registre à vous du côté d'EMA Québec. D'ailleurs, je m'adresse à ces gens-là qui nous écoutent et qui auraient envie d'être donneurs. C'est quoi la procédure à suivre?
Procédure est somme toute assez simple. Bon, il faut être âgé entre 18 et 35 ans.
Ah oui? Pourquoi après 35 ans, ça ne fonctionne plus?
C'est que ça, c'est pour l'inscription.
Ah, d'accord.
Et l'inscription, donc, on vise une clientèle de 18 à 35 ans. Et par ailleurs, on a une préférence, si vous voulez, en quelque sorte, pour les hommes. Pour une raison fort simple, c'est que toute femme qui a eu un antécédent de grossesse, ça vient modifier son typage HLA et ça peut faire en sorte qu'une greffe aurait peut-être moins de chance. Donc, on recherche du 18-35 ans, des hommes de préférence, puis les femmes ont davantage répondu là, traditionnellement, parce que quand on regarde le registre québécois, il y a 2/3 des inscriptions qui sont le fait de femmes. Et donc, on a besoin d'avoir davantage d'hommes, être en bonne santé et être disponible pour quiconque aurait besoin d'une greffe de cellules souches. Et ça, cet aspect-là est très important. Souvent, dans un cas comme celui de Mai Duong ou dans les autres cas qui sont médiatisés, les personnes vont répondre en pensant qu'elles peuvent être donneurs pour une personne en particulier. Or, les probabilités sont quasiment nulles qu'on soit donneur pour une personne
en particulier.
Il y a toutefois 3 % de chances qu'on se fasse appeler une fois dans sa vie pour être un donneur potentiel pour quelqu'un qui en a besoin. Ça peut être ici au Québec ou ailleurs dans le monde.
Mm-hmm.
Et c'est la même chose pour les autres donneurs à l'étranger qui donnent pour des patients québécois qui ont besoin d'une greffe.
Oui. Est-ce que c'est douloureux?
La procédure est somme toute assez simple au niveau du don. Sauf que ça nécessite plus du temps. Donc, la douleur est peut-être davantage au niveau de l'agenda parce qu'il faut compter peut-être 4 semaines de préparation au niveau de la personne qui va donner. Mais selon la procédure utilisée, on parlait tantôt, il y a la ponction dans la moelle osseuse. Dans ce cas-là, on parle d'une anesthésie et donc d'une ponction qui se fait dans la moelle osseuse. Donc, c'est une procédure chirurgicale. Cela dit, les risques de complications sont toujours possibles parce que c'est une intervention, mais sont extrêmement faibles. En termes d'effets secondaires, on parle d'une douleur au niveau donc, du bassin, donc l'endroit où on fait la ponction, et une douleur qui va disparaître après quelques jours, un peu comme si on fait une bonne séance de sport et après ça, on se sent courbaturé. C'est un peu le même sentiment, la même sensation, c'est-à-dire. Maintenant, si on regarde du côté de l'autre type de don, donc le don de cellules souches par le sang périphérique, on parle d'un don par aphérèse. Les personnes, les auditeurs qui sont des donneurs de sang peuvent connaître cette procédure-là. C'est une procédure qui consiste à prélever le sang du donneur et donc à le centrifuger et retenir le composant qu'on souhaite retenir. Dans ce cas-ci, ce sont les cellules souches. En termes d'effets secondaires, quasiment nul. La personne va faire son don et va continuer ses opérations. La seule chose, c'est que le donneur doit prendre un médicament quelques jours avant son don et la prise du médicament peut avoir des effets secondaires légers, à savoir, on ne se sent pas nécessairement très, très bien, mais c'est somme toute mineur quand on sait qu'on va sauver une vie.
Bien sûr. En terminant, Laurent Palmenant, est-ce que Mai Duong a trouvé son donneur?
On est toujours à la recherche d'un donneur. Et tant et aussi longtemps que des personnes continuent à répondre,
il y a
toujours espoir. Donc, oui. De ce côté-là, la réponse est bonne, les recherches se poursuivent.
Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a pu aborder ce sujet-là et le démystifier pour le grand public. Je rappelle que si on veut en savoir davantage, d'ailleurs, le site d'Aimant Québec est très, très bien fait. Questions-réponses, très bien vulgarisées. www.aimant-québec.qc.ca. Laurent Palmenant, je rappelle aussi que vous êtes directeur des communications externes chez Aimant Québec. Ça a été vraiment un plaisir et merci beaucoup. On souhaite bien sûr les meilleures chances à Mai Duong, sa famille et ses proches.
Merci.
Pour rejoindre Marianne Paquette et l'équipe de C'est bon pour la santé, dans la région de Montréal, 514-282-1999, poste 220 et sans frais ailleurs au Québec, 1-800-361-0635 et par courriel à mpaquette@commercialvusezvoix.com. Suivez-nous sur Facebook, / C'est bon pour la santé et sur Twitter, @commercial, canal, _M.
Le patient et le médecin, tout nouveau livre à sortir tout bientôt sous les presses de l'Université de Montréal, sous la plume de Marc Zaffran. Bonjour.
Bonjour.
Là, on va mettre tout de suite quelque chose au clair pour que l'animatrice soit à l'aise. Marc Zaffran ou Martin Winkler aujourd'hui?
Aujourd'hui, c'est Marc Zaffran parce que c'est ce nom-là sur le livre, mais ça n'a pas vraiment grande importance.
Ça n'a pas d'importance pour vous. Parfait. Alors, je vous appelle Marc pour les prochaines minutes. Je rappelle que vous avez été médecin pendant plusieurs années en France, également enseignant du côté de l'Université de Montréal, l'Université McGill, l'Université d'Ottawa. Quand parce que moi, j'ai eu la chance d'avoir le livre en primaire et de le parcourir, le patient, le médecin, quand on le débute, on apprend que, Marc, votre papa était médecin, que dès votre plus jeune âge, vous vouliez faire ce métier-là et que pour vous, être médecin, c'était tout simplement quelqu'un qui soigne. Avec l'expérience, est-ce que cette perception-là s'est modifiée, a changé?
Oui, surtout quand j'ai fait mes études. Alors, je les ai faites en France, mais c'est vrai un peu partout. Les médecins ne sont pas formés pour soigner. Les médecins sont formés pour acquérir un savoir très important, un savoir-faire très important. Ils sont aussi, surtout, formés pour faire partie d'un groupe privilégié. Et ce groupe privilégié est censé non seulement délivrer des soins, mais aussi dirige, enfin, en tout cas, dans beaucoup de pays, c'est comme ça, ils dirigent l'ensemble des soignants. Ils ont l'autorité sur l'ensemble des soignants. Et ça, c'est un vrai problème parce que leurs intérêts personnels ne sont pas les mêmes que les intérêts des patients.
Mmh. Avec ce livre-là, bien sûr, vous vous êtes penché, vous avez réfléchi à cette relation entre le patient et le médecin. C'est quoi votre regard, si on s'attarde à ici au Québec, là, vous y êtes établi depuis plusieurs années maintenant, sur cette relation-là?
Alors, au Québec, on a beaucoup plus de respect pour qu'en France, par exemple, on a beaucoup, et au Canada, au Québec, on a beaucoup plus de respect pour ce qu'on appelle l'autonomie du patient, c'est-à-dire sa capacité à s'autodéterminer, à prendre ses décisions lui-même. Il y a des problèmes d'accès aux médecins, c'est-à-dire qu'il y a des... Malheureusement, par exemple, au Québec, tout le monde n'a pas de médecin de famille, mais quand on a un médecin de famille... Quand on a accès à la médecine, on bénéficie d'un respect dont, par exemple, les patients français ne bénéficient pas. Mm-hmm. C'est particulièrement vrai en santé des femmes où, en France, les femmes continuent à faire l'objet d'un paternalisme très important.
Sur le quatrième de couverture, vous dites que les médecins manquent de formation. Pourquoi vous affirmez cela?
Et il manque de formation en particulier dans ce qui concerne l'empathie et la capacité relationnelle. C'est-à-dire que pendant très longtemps, on a cru qu'être médecin, c'était simplement savoir diagnostiquer des maladies. Or, si on veut que des médecins soient des gens qui soignent, il faut d'abord qu'ils apprennent à rentrer en contact avec les gens et à entendre de la part des gens quels sont leurs besoins. Parce que c'est seulement si on connaît les besoins des gens qu'on peut les soigner. La technologie, le savoir, ça, c'est des outils pour aider les gens. Mais c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est d'abord de voir avec eux qu'est-ce qui les fait souffrir et de quoi ils ont besoin pour être soignés.
Mais vous avez vous-même enseigné à de futurs médecins. Est-ce que vous avez tenté d'apporter cette approche-là? Est-ce que ça vous a inquiété, leur formation?
C'est-à-dire, la formation, elle m'inquiète depuis que moi-même j'ai été formé. C'est-à-dire que pendant que j'ai été formé, je me rendais bien compte qu'on ne me formait pas pour soigner. Il a fallu que je l'apprenne, que j'apprenne beaucoup de choses par moi-même, avec des gens qui, eux aussi, étaient préoccupés. Alors, ce qui est problématique, et c'est moins problématique, encore une fois, au Canada, et en particulier au Québec, où on est très soucieux de ça, mais ce qui est problématique, c'est que dans beaucoup de pays, on ne laisse pas entendre aux médecins que leur loyauté doit d'abord aller aux patients.
Ouais.
Ensuite seulement à leur caste ou à leur groupe social. Et ça crée des conflits, si vous voulez, des conflits d'intérêts qui sont très grands parce que, et bien évidemment, que tous les médecins ont besoin aussi de gagner leur vie, ils ont une famille, ils ont envie d'avoir des gratifications de ce qu'ils font.
Ouais.
Mais ce désir légitime rentre en conflit aussi avec le désir légitime des patients, eux, d'être écoutés.
Marc, à la fin de votre livre « Le patient et le médecin », il y a une partie que j'ai beaucoup appréciée, qui est beaucoup plus concrète, sur les comportements inadéquats des médecins. En fait, quoi faire? C'est quoi les signaux d'alarme? Comment les reconnaître? Si on voulait en livrer quelques-uns pour nos auditeurs, sur quoi vous metteriez l'accent?
J'explique ça à un moment donné en disant, souvent on dit « ce médecin, il n'est pas très causant, mais il doit être compétent ». Moi, je pense qu'un médecin ne peut pas être compétent s'il n'a pas de qualité relationnelle. Et des qualités relationnelles, c'est facile à identifier. C'est quelqu'un qui est gentil, qui vous sourit. Et quand vous sortez de son cabinet, vous vous sentez plutôt mieux que quand vous êtes rentré. C'est-à-dire, au moins, vous êtes rassuré. Ou bien, si vous avez des informations sur la maladie, vous savez ce qu'il faut faire. Et vous avez le sentiment qu'il est avec vous et pas contre vous. Un médecin qui vous accompagne, qui est de votre côté et qui ne vous laisse jamais entendre, qui vous juge, ça, c'est quelqu'un à qui vous pouvez faire confiance. Quand vous vous sentez jugé, quand vous vous sentez dénigré, quand vous avez l'impression que ce que vous avez à dire n'est pas écouté, alors il y a un problème. Ce n'est pas quelqu'un qui a un comportement professionnel.
Et c'est quoi le recours si jamais on se sentait mal à l'aise avec notre médecin en sortant de la consultation?
Ben, ça dépend un peu des situations, mais moi, ce que je conseille toujours, c'est que il faut garder à l'esprit que le patient, c'est le patient qui est le demandeur de soins, et c'est au patient qu'on doit donner des soins. Donc la première chose à faire, c'est de le dire. En gros, quand on a une relation qui est de mauvaise qualité, d'abord il faut le dire. Il faut dire, docteur, vous ne m'écoutez pas. J'ai besoin de vous dire des choses et vous êtes en devoir d'écouter ce que j'ai à faire. Et la deuxième aussi chose qu'il faut faire, c'est en parler autour de soi. Alors ça peut être, si c'est pas très grave, ça peut être simplement de demander conseil ou par exemple d'y aller avec quelqu'un, d'aller voir son médecin avec quelqu'un pour qu'il y ait un tiers. C'est toujours plus facile d'avoir une relation, quand on n'arrive pas à communiquer, d'avoir un tiers qui soit là un peu pour servir d'intermédiaire et de médiateur. Mm-hmm. Mais de toute façon, il ne faut pas rester dans le silence. Et il ne faut surtout pas penser qu'une mauvaise relation avec un médecin, c'est de la faute du patient. C'est-à-dire que, bien sûr qu'il y a des patients difficiles, mais l'immense majorité des patients ne sont pas difficiles, ils font confiance au médecin, ils sont donc en droit d'attendre que leur médecin les respecte.
Mm-hmm. Marc, le temps file, j'aurais aimé aborder plein de choses avec vous, le rapport à la souffrance, la différence entre soigner, traiter, guérir, selon vous. On n'a malheureusement pas le temps. Dernière question, à qui s'adresse ce livre-là? Aux patients, futurs patients, ou plus aux médecins et à la communauté scientifique?
Non, il s'adresse à tout le monde. C'est ce que je dis à un moment donné dans le livre. Moi, je ne parle pas en médecin, je parle en... Enfin, tout le monde, nous sommes tous des patients. Hein. Les médecins ont tendance à oublier qu'ils ont été... ou qui seront des patients eux aussi. Donc je m'adresse à tout le monde. Je m'adresse à tout le monde en disant quel genre de soignant on veut, et est-ce qu'on veut vraiment que les soignants soient des gens qui se considèrent comme des privilégiés et qui se comportent comme des gens supérieurs au reste de la communauté. Mm-hmm. Non, on veut que les soignants ils se considèrent comme nos égaux, et que ce soit qu'ils nous traitent tous comme si on faisait partie de leur communauté et non pas d'une autre communauté. Mmh. Donc ça s'adresse à tout le monde.
Marc Zafran, je rappelle que vous êtes l'auteur du livre « Le patient et le médecin » qui sort le 15 septembre. Le lancement sera le 22, c'est publié à Les Presses de l'Université de Montréal. Vous serez présent d'ailleurs pour le lancement.
Oui.
Et votre site web, je ne l'ai pas sous les yeux, www.martinwinkler.com, c'est bien ça?
Voilà.
Ah,
voilà.
Je le savais par cœur, c'est génial ça. Marc Zafran, merci beaucoup.
Merci à vous, au revoir.
Au revoir. Eh bien, c'est déjà la fin de cette dernière de ces bons pour la santé. Merci beaucoup d'avoir été là. Pour me joindre, le mpaquette@vusezvoix.com par téléphone, c'est le 1-800-361-0635, poste 220. Je vous rappelle qu'on est présent sur Twitter, également sur Facebook à @canal. Trait de soulignement M. Moi, je vous souhaite un très, très beau week-end. Reposez-vous, prenez soin de vous et on se retrouve lundi. Bye-bye!